HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre zone.
Autre zone.
Bonjour, aujourd'hui une nouvelle émission Autre Monde, Autre Zone sur Jet FM, préparée avec une équipe élargie, Gauthier, Stéphane et moi. Nous vous proposons un thème autour de la santé. La structure du système français de santé a profondément été transformée depuis les 20 dernières années pour évoluer d'un système de solidarité intergénérationnelle à une privatisation à tous les niveaux de tous les domaines de la santé. Ces changements ne sont pas sans conséquences négatives pour la santé des travailleurs-travailleuses. Ce sera notre fil conducteur aujourd'hui, mais bien sûr, nous sommes tous et toutes impactés par les changements en cours. Barbara Stiegler et François Allat, dans Santé publique année zéro, ont montré comment la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 avait exposé la faillite d'un système incapable de penser la prévention, le tri aux urgences, les protocoles de réanimation ont rendu visible ce qui fonctionnait déjà à bas bruit. Une logique de sélection des vies dignes d'être soignées. De plus en plus de soignants témoignent de cette violence institutionnelle quotidienne. Le premier entretien de ce jour sera local avec une infirmière du CHU de Nantes. Dans ce premier entretien, il est fait mention de l'ARS. Donc en France, le système de santé repose en grande partie sur les pouvoirs publics. Au niveau national, à côté de l'assurance maladie, il y a les ministères chargés de la santé et des affaires sociales, aidés par des agences sanitaires comme la Haute Autorité de Santé. Au niveau régional, les décisions nationales sont adaptées en tenant compte des spécificités sanitaires, géographiques et de population, et elles sont mises en œuvre par les agences régionales de santé, les ARS. Et ensuite, nous passerons à un niveau national avec un sujet autour des assises de la santé.
Je suis Antoinette Durand, j'ai 46 ans et je suis infirmière depuis 2003. Je suis également représentante syndicale, je suis secrétaire de la section Sud au CHU de Nantes. Alors, il y a une actualité là assez importante au niveau du CHU, plusieurs services qui se mettent en grève. Leur point commun, c'est l'absence de soignants, soit pour remplacer les arrêts maladie, soit les équipes estiment qu'ils sont en sous-effectif constant. C'est-à-dire que vraiment, la trame de base n'est pas suffisante. Ça, c'est une question qui revient très souvent, le ratio soignant-patient, combien de soignants au lit du patient. Plusieurs services d'horizons différents ont les mêmes problématiques. C'est le reflet aussi de ce qui se passe au niveau du CHU, mais on va dire même de manière générale sur beaucoup de CHU en France. Donc, c'est l'ARS, c'est le nerf de la guerre, l'argent pour pouvoir financer les services. Et on voit bien que le point commun, c'est que bien, le budget est loin d'être suffisant pour faire fonctionner l'hôpital, comme il le faudrait, en tout cas, comme les soignants l'entendraient. On va dire que ce que réclament les soignants, c'est ce qui permettrait de faire fonctionner un service normalement, c'est-à-dire de manière à ce que le soignant n'ait à se préoccuper que du soin. partir du moment où tu te préoccupes du soin, mais aussi de savoir qui va remplacer ta collègue qui est absente le week-end, comment est-ce qu'on va réarticuler les soins pour la semaine prochaine parce qu'on ne sera pas suffisant. Et de manière récurrente, que cela devient un sujet de préoccupation journalier, là, il y a un problème. Donc, ce que réclament les soignants, ce n'est pas du plus, c'est le minimum pour fonctionner normalement et se consacrer à une seule chose, notre cœur de métier, le soin. Ça fait très longtemps que les soignants parlent du fait que les maquettes, alors les maquettes, hein, c'est l'organisation des ressources humaines sur le fonctionnement d'un service, hein, parle toujours de maquettes insuffisantes. Le nombre de soignants au lit du patient n'est pas suffisant. Ça a des conséquences sur la qualité des soins, la perception du soin que va délivrer un soignant, parce qu'il aura toujours en tête que normalement, dans d'autres conditions, on aurait pu faire mieux. Et au pire aussi, hein, évidemment, quand on n'est pas suffisamment pour pouvoir aider un patient à faire sa toilette complète au lit, eh bien, on va forcer sur ses épaules, on va forcer sur ses bras et on va arriver à des conséquences physiques et évidemment psychologiques. On va créer du mal-être au travail. Et quand on parle du mal-être soignant, il faut bien penser que ce sont les conditions de travail qui les génèrent. Prendre soin du soignant, ce n'est pas dire vous avez besoin d'échanger, de pouvoir déposer votre souffrance. Oui, mais il y a la base. Je suis infirmière à l'origine en psychiatrie. Il ne faut peut-être pas psychiatriser le mal-être des soignants. Il faut peut-être regarder ce dont ils ont besoin à la base et ne pas faire rentrer dans la santé mentale ce qui est de l'ordre d'un défaut de fonctionnement par manque de moyens physiques ou matériels. Ça impacte la vie familiale, hein, ça impacte la vie personnelle en général. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la certitude du déroulé de ton planning, si tu te demandes si tu vas être appelé le week-end prochain pour venir remplacer, ça génère une tension pour soi, ça génère une tension au sein de l'équipe entre ceux qui vont pouvoir accepter une fois, deux fois, puis au bout de la troisième fois, vont en avoir marre. Ceux qui vont, à un moment donné, on va compter le nombre de fois où on est revenu et le nombre de fois où on est venu, on a été sollicité et qu'en plus, on ne trouve pas de solution pérenne. On a l'impression d'être dans un cercle infernal, c'est-à-dire que ce sera la sensation d'avoir toujours les mêmes qui reviennent. Et puis, du coup, ça génère une tension, ça génère au niveau de l'équipe des ressentiments, de la colère. Enfin, on peut aller très loin dans le dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'ensuite, on va désigner une équipe qui va mal, qui dysfonctionne. Mais oui, mais si on revient à la base, on revient toujours à la même chose. Quels étaient les besoins à la base qui n'ont pas été, nourris correctement, je dirais. Revenir dans des situations catastrophiques, on l'a tous fait. L'exemple le plus probant, c'était 2020 avec le Covid. On est passé en plan blanc. Tout le monde y est allé, il n'y avait pas de questions à se poser. Mais quand on nous pousse dans nos retranchements à constamment compter sur le fait qu'on va encore revenir, on va encore pouvoir pousser encore plus loin le bouchon, au bout d'un moment, ça explose. Et là, on voit bien, l'embauche n'est pas si mirobolante que ça. Le service public ne fait plus rêver. Le fait d'être infirmier ou soignant, en tout cas à l'hôpital, dans différents métiers, ne fait plus autant rêver que ça, ne procure plus de sensations de sécurité, ne procure plus de satisfaction aussi importante. Et c'est pour ça que aussi le recrutement peut être beaucoup plus difficile ou lent, parce que effectivement, attirer du monde, maintenir les personnes au poste, c'est pas si aisé que ça. Alors qu'on a, par exemple, si je prends l'exemple de la profession infirmière, on a des institutions de formation en soins infirmiers avec des promotions à 200, on ne réussit pas à capter les 200, hein, loin de là. Voilà. Dans un hôpital qui fonctionnerait, qui serait doté de moyens qu'on estimerait suffisants, mais là, je parle même à l'échelle de la France, hein, ça devrait se bousculer au portillon, on devrait avoir le choix du soignant. Ce n'est pas du tout le cas. De manière générale, hein, lorsque l'on nous parle de projet au niveau du CHU, on parle toujours de l'enveloppe de départ, c'est-à-dire qu'en fait, on ne part jamais du besoin. On parle de l'enveloppe qui est déjà contrainte. Il ne sera jamais au niveau qu'on attend. Soit on aura un nombre de places limité, soit on aura un lieu qui ne correspondra pas totalement à ce que l'on souhaite. Et du coup, le projet peut être ambitieux sur le papier, mais le budget qui va aller avec ne sera jamais à la hauteur des besoins. Je donne un exemple pour la pédopsychiatrie et les lits d'hospitalisation. Sur le 44, on est doté de 4 fois moins que la moyenne nationale. Mais les projets qui sont faits sont à l'heure actuelle faits pour 2028. Il y aura 18 lits supplémentaires sur le CHIP et 8 lits supplémentaires sur le CHU. Donc comment on fait en attendant? On court derrière le train parce qu'on n'a absolument pas la dotation nécessaire. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on va hospitaliser des enfants chez les adultes. Ce projet-là, par rapport à la pédopsychiatrie, d'un point de vue financier, il est vraiment représentatif des budgets qui sont faits et qui sont alloués. En tout cas, c'est le point de vue qu'on a sur Sud. La direction, évidemment, aura un point de vue différent, surtout par rapport à la création du projet Île de Nantes. Mais nous, de notre point de vue, c'est un projet qui est sous-calibré, sous-doté par rapport aux besoins de la population et des besoins des soignants en termes de fonctionnement. Et à côté de ça, on nous demande constamment, passe-moi l'expression, mais de faire du chiffre, coter nos actes, et on nous pousse à la rentabilité. Mais santé et rentabilité, c'est deux mots qui ne vont absolument pas ensemble. Il y a un virage vers l'ambulatoire, donc avec cette grande promesse qui peut tout à fait être confortable pour un patient, et on le conçoit, au lieu de venir passer 3 jours à l'hôpital, de pouvoir entrer le matin et rentrer chez soi le soir. Certes, c'est très bien. Le projet sur le papier pouvait être parfaitement ambitieux, mais dans tous les cas, était sous-calibré par rapport à un certain type de population. Comment on fait lorsqu'on découvre au décours de la journée que le patient va finalement avoir besoin de rester dormir? Où est-ce qu'on le met? On n'a pas pensé au « et si », le « et si » que tous les soignants pouvaient avoir dans leur tête. Et puis, « et si le Covid passe par là », on se rend compte de l'explosion à ce moment-là au niveau des urgences. Eh bien, on vient maintenir l'hôpital Nord et on crée d'autres médecines aiguës gériatriques pour venir accueillir ces populations, notamment de patients qui ont de multiples pathologies, donc ce qui nécessite un service véritablement dédié, clairement. Donc, le maintien de l'hôpital Nord s'est fait dans ces conditions-là. Je pense qu'il y a eu un petit retournement de situation et où la direction s'est rendue compte de la nécessité de maintenir des lits pour éviter d'embouteiller. Les urgences sont très régulièrement en tension. D'ailleurs, on a des lits qui s'appellent comme ça, des lits en tension, donc qui sont débloqués sur cette période-là. Ça devient toute une modification de vocabulaire, d'ailleurs. Ces périodes-là vont par exemple être dans les périodes hivernales, typiquement un épisode de grippe très puissant qui va emboliser effectivement beaucoup, beaucoup de lits au niveau des urgences et peuvent créer un temps d'attente extrêmement important. Les décès pour l'instant aux urgences qui ont pu être relatés, ce sont des décès à déplorer. Parfois, effectivement, dans des situations où les personnes étaient déjà dans un état critique, je dirais, hein, je veux pas minimiser, mais pour les échos que j'en avais eus, on peut déplorer, c'est qu'elles n'ont pas pu être accompagnées. C'est-à-dire qu'en fait, hein, c'est l'arrivée aux urgences tout en sachant qu'on est déjà dans une situation extrême, que la personne va probablement décéder, mais qu'en fait, voilà, dans la situation, elle n'a pas pu être accompagnée. Enfin, c'est épouvantable de se dire ça. Au niveau des soignants, très régulièrement, ils ont vraiment la tête sous l'eau. C'est compliqué de maintenir une équipe avec un moral d'acier pour tenir aux urgences. Néanmoins, ce qu'on peut également dire, c'est qu'il y a des modifications d'organisation de travail. Alors, notre syndicat est totalement opposé à la bascule en 12 heures. Mais on peut voir que ça devient des demandes au niveau des équipes, ce qui est assez épouvantable. La médecine du travail est très claire là-dessus, sur tous ses effets néfastes par rapport à tous les impacts sur les soignants, sur le travail, sur physiquement. L'argument premier, c'est « je veux passer le moins de temps possible à l'hôpital ». Je pense que ce 12 heures donne une illusion chez des gens qui sont bien portants, qui sont jeunes, pour lequel ils vont pouvoir enquiller ces heures-là. Sur les premières années, ça n'aura pas d'impact sur le physique. Certains parlent de l'organisation du travail en 12 heures en disant que ça leur permet de se sentir plus autonomes dans leur façon de s'organiser. Ils trouvent peut-être un réel intérêt, mais qui pour nous est un leurre total. Les impacts au fur et à mesure des années est clairement avéré. avec des risques pour la santé, des risques majeurs, des risques de cancer. Mais dans tous les cas, dans les premiers temps, passer 9 heures de travail d'affilée, c'est là où on se rend compte que les erreurs peuvent arriver, puisqu'il y a une baisse de la concentration entre 9 et 12 heures, et qu'ensuite, derrière, il faut rentrer chez soi. Et que pour la plupart des soignants, les trois quarts n'habitent pas dans le centre-ville de Nantes. Donc derrière, il faut enquiller entre 30 et 40 minutes de voiture. On multiplie les risques pour un argument qui est « moi, j'ai besoin de couper avec l'hôpital, je veux condenser mes jours de travail pour y rester le moins possible ». Ça, c'est une question qui s'est en tout cas posée aux urgences. Là, une partie des urgences va passer en 12 heures, une autre partie va se maintenir dans un horaire classique pour le moment. Moi, je ne peux m'empêcher de faire la corrélation en me disant que peut-être certains sont vraiment convaincus de la nécessité de passer en 12 heures, mais je pense que c'est les conditions actuelles qui poussent les agents à un moment donné à réfléchir à cette extrémité d'aller en 12 heures. La mise en collectivité avec une équipe est beaucoup plus compliquée. Il n'y a pas de passage de transmission comme auparavant. C'est quelque chose de très bref. Et puis, on ne va pas voir l'ensemble ou une plus grande partie de ses collègues, puisque comme on est en 12 heures, on ne va pas être sur le même effectif. Là où on va perdre, c'est dans le faire ensemble. Les équipes, quand elles se transmettent de la nuit au matin, du matin à l'après-midi et de nouveau de l'après-midi à la nuit, eh bien ces trois temps-là sont fondamentaux pour, on va dire, lier la mayonnaise au sein d'une équipe. C'est comme ça qu'on sent comment l'équipe roule ou ne roule pas, d'ailleurs. Et tout ce sens du collectif va se perdre, ou en tout cas peut se perdre. Ça, c'est un gros risque quand on vient contraindre de plus en plus les organisations de travail. C'est une perte de sens. Alors parfois, peut-être que de temps en temps, ça peut se traduire par une certaine froideur au contact du patient, ou on est des humains, hein, peut-être parfois un certain agacement d'une demande pour la xème fois d'un patient. On aimerait tellement qu'il se rende compte qu'il y en a 30 à attendre, mais voilà, parfois on la garde pour soi, la réflexion évidemment. Plus on contraint les conditions de travail des agents, plus effectivement on va en arriver à ces extrêmes-là qui s'éloignent complètement du pourquoi on a choisi ces professions-là. En dernier lieu, là, ils souhaitent que lorsque tu fais appel à un soin, on te donne la tarification du soin, de manière à, soi-disant, c'est pour une certaine prise de conscience. Moi, je trouve que c'est clairement dans le champ de la culpabilisation. Lorsque l'on va faire un soin, il nous a été prescrit et que par conséquent, c'est l'évaluation du médecin qui nous a orientés vers ce soin, de savoir que le scanner ou la prise de sang que l'on va passer coûte temps. Je ne vois absolument pas ce que cela apporte en termes de responsabilité. Le patient, il en a besoin, point. En tant que soignante, j'aime profondément mon métier, vraiment. C'est, je crois que je l'ai chevillé au corps et que quand on fait le choix de se placer en tant que représentante du personnel, c'est parce qu'on a la certitude qu'en luttant, on va dire, en étant nombreux à lutter, on peut faire changer le système, parce que je pense que le bon sens, il est de notre côté à nous.
Merci Antoinette pour ce témoignage. La musique est une thérapie en soi. Il y a donc beaucoup de choix possibles musicaux pour accompagner les propos d'Antoinette. Le choix de Capucine, autrice-compositrice, ici d'une chanson intitulée « Maladie », inspirée d'une souffrance physique et psychique, n'est pas en soi une thérapie, mais par contre c'est un témoignage sur la maladie et sur la souffrance qu'elle peut apporter. Je vous laisse écouter.
J'inspire toute la nuit.
Deuxième partie de cette émission avec un conseil de publication, la revue des pratiques, cahier de la médecine utopique. Le titre du numéro de juillet 2025 était « Les politiciens nuisent gravement à la santé publique ». Nous retrouvons ici les mêmes reproches que nous avons déjà entendus dans les émissions sur la zone portuaire de Saint-Nazaire. Les citoyens, citoyennes ne peuvent pas compter suffisamment sur les élus pour faire valoir leurs droits à la santé. C'est un reproche récurrent et l'on voit des collectifs de citoyens, citoyennes se constituer pour faire pression sur les élus en matière de santé et donc aussi de pollution environnementale. Notre sujet maintenant, la santé au travail, la sécurité sociale a été pensée et construite avec l'idée que les cotisations des actifs financent les soins et les retraites des plus âgés. C'est un système qui est équilibré avec une partie de cotisation salariale et une partie de cotisation patronale. Ces cotisations constituent un salaire différé. Au départ, les caisses collectant les cotisations étaient indépendantes du pouvoir gouvernemental, mais ce pouvoir n'a eu de cesse de récupérer le contrôle des caisses et de diminuer le montant des cotisations patronales sous pression du patronat. Alors évidemment, quand vous diminuez les recettes, le système devient déficitaire. Par ailleurs, il existe un fort lobbying des laboratoires pharmaceutiques pour vendre les médicaments au prix fort. Je pense que nous sommes nombreuses à nous demander pourquoi il reste autant de médicaments dont nous n'avons pas besoin dans notre pharmacie personnelle. Les acteurs de la santé au travail sont les employeurs, les délégués du personnel, les services de santé au travail. Tout cela va être développé par Louis-Marie, Christelle et Marjorie. Je dois vous expliquer l'acronyme qui revient souvent, celui de CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Donc, Louis-Marie Barnier, je suis un des initiateurs effectivement de ces assises. Je suis moi-même syndicaliste, longtemps travaillé dans le transport aérien et je suis sociologue du travail. Je donne des cours à Nantes dans un master santé conditions de travail sociologique et vraiment très sympa.
Marjorie Guéters, je suis dans l'éducation, je milite à la CGT de Pantin dans le 93. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau éco-syndicaliste, qui est un réseau intersyndical et qui fait le lien entre les questions de travail et d'écologie.
Donc, je suis Christelle Glémet, donc je suis à la CGT Travail Emploi Formation Professionnelle, qui syndique notamment les inspecteurs et inspectrices du travail.
Pourquoi les assises de la santé au travail et pourquoi êtes-vous impliqué personnellement ou à travers votre organisation ?
Alors, je veux bien refaire l'historique, puisque je suis quand même un des plus anciens dans cette affaire-là. D'abord, les questions de santé au travail, hein, ce qui nous a semblé important, c'est qu'elles occupent une place très importante dans la vie des gens. Elles structurent, en fait, autant le travail structure la vie, la santé au travail structure la santé, hein, dans le même sens. Et c'est aussi un des lieux d'intervention, un des domaines d'intervention des salariés dans leur travail et des syndicalistes qui les représentent. Et pourtant, il y a très peu de travail de fait. On avait une grosse construction quand, à l'époque où il y avait les CHSCT, mais depuis 2017, ils ont été supprimés. On a donc eu un retour en arrière des questions de santé au travail extrêmement important. Donc, depuis quelques années, les syndicalistes investis dans ces questions, comme moi-même, nous demandions un peu comment faire et Solidaires, avec Eric Benel, avait pris l'initiative d'organiser des états généraux de la santé au travail pendant plusieurs années, qui ont regroupé plusieurs centaines de personnes, et qui montraient bien à la fois l'attente des syndicalistes et aussi la disponibilité de tout un milieu de chercheurs et de militants de la santé au travail. Donc, à partir de là, et quand Solidaires n'a pu assurer ce travail de coordination, on a commencé d'abord par faire des rassemblements le 28 avril, qui est la journée mondiale pour la santé et la sécurité des travailleurs, une journée donc organisée dans tous les pays. Et puis, on s'est dit que ça ne suffisait pas, on faisait des débats, il y avait plusieurs centaines de personnes, mais ce n'était pas très constructif. Et donc, on a engagé l'idée de ces assises de la santé au travail, dont la troisième session se tiendra les 17 et 18 mars prochains. Donc, les assises regroupent 600 personnes. Enfin, l'année dernière, c'était 600 inscrits. Elles ont lieu dans la Bourse du Travail historique de Paris, avec donc autour de 4 salles, 4 ateliers différents en permanence sur 2 jours. L'entrée est libre, c'est gratuit, c'est financé. De toute façon, le financement n'est pas énorme par les organisations parties prenantes. Et la composition, disons qu'il y a à peu près les 2/3 de syndicalistes et 1/3 de personnes militantes de la santé au travail. Il faut savoir que la santé au travail, c'est un domaine qui mobilise en fait très largement, notamment des citoyens, des associations. D'ailleurs, les assises sont co-organisées par la CGT Solidaire, la FSU, organisation nationale, et un certain nombre d'associations, donc dont le réseau éco-syndicaliste, mais aussi Travail et Démocratie, l'Association de Santé et Médecine du Travail, et ATTAC, bien sûr. En fait, on a deux objectifs qui sont précisés au fur et à mesure qu'on avançait. Le premier, c'est de donner des outils aux militants syndicalistes et autres, c'est-à-dire qu'ils viennent avec un certain nombre de demandes par rapport à leurs investissements quotidiens sur ces questions de santé au travail. Et donc, on a des apports de connaissances et aussi des apports en termes de que font les autres. On donne des idées, ça ouvre des perspectives. Par exemple, une des premières interventions en assemblée plénière le 17 mars sera faite par les camarades syndicalistes de Marseille qui viennent de déposer une plainte contre X pour exposition à l'amiante dans les écoles. Et donc, c'est une plainte par un collectif auquel participent les syndicats de l'éducation nationale qui le structurent, mais aussi des associations de parents d'élèves et des citoyens. Et donc, on voit bien que dans cette démarche de plainte au pénal, on a une ouverture de perspective, notamment dans la fonction publique, où on voit bien qu'on a beaucoup de mal à faire avancer toutes ces questions de santé au travail. Et donc, le deuxième objectif, c'est aussi de créer un événement et de faire avancer le rapport de force national dans le domaine de la santé au travail. Hein, si plus d'un tiers des participants ne sont pas des syndicalistes, c'est qu'il y a toute une partie en fait de la population qui s'intéresse, qui se sent concernée, qui investissent ces questions de santé au travail. Et je pense notamment aux chercheurs, hein, qui sont assez présents, aux jeunes chercheurs. J'ai une enseignante qui m'a dit qu'elle envoyait systématiquement ses doctorants participaient aux assises, mais aussi l'inspection du travail, Christelle nous en dira plus, qui est très présente en fait dans les inspecteurs du travail syndicalistes dans ces assises. Voilà, on a en fait deux objectifs qu'on essaye de tenir à chaque fois et j'espère que la participation montre que les personnes en fait trouvent des réponses à leurs besoins immédiats, mais aussi mais plus largement à leur demande. Voilà. Et donc chaque atelier est ouvert par plusieurs personnes qui exposent leurs investissements, les démarches qu'ils ont prises, mais aussi par des chercheurs, des juristes, qui amènent aussi une partie de la connaissance, permettent aux personnes de partir mieux armées.
Mon organisation syndicale s'est engagée sous deux angles, en fait. Évidemment, les accidents du travail, particulièrement, la France détient le triste record des accidents du travail graves et mortels, avec par ailleurs une sous-déclaration terrible, puisque d'une part, les fonctionnaires ne sont pas comptabilisés, hein, on parle que des chiffres de la sécurité sociale, en l'occurrence, quand on tient des décomptes, et puis par ailleurs, une invisibilisation total des accidents et des atteintes à la santé pour énormément de travailleurs, parmi les plus précaires notamment, ceux qui sont sous statut, qui sont pas reconnus comme travailleurs salariés, etc. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est ce prisme, mais c'est aussi également échanger avec toutes les personnes et toutes les organisations qui sont engagées dans la lutte pour l'amélioration de la santé et contre les accidents du travail sous différents angles. Et par ailleurs, nous, ce qui nous intéressait particulièrement, mais je ne vais pas forcément prêcher pour ma chapelle aujourd'hui, c'est le manque de moyens à l'inspection du travail, qui est quand même un des aspects, qui est pas l'aspect unique, bien évidemment, hein, mais l'inspection du travail souffre d'un manque d'effectifs terrible. Aujourd'hui, on est moins de 2000 agents de l'inspection du travail à contrôler la mise en œuvre de ces règles. Et bon, nous, on est un corps de contrôle évidemment extrêmement important. Mais comme Louis-Marie le faisait remarquer au début, depuis 2017, la disparition des F3SCT a également considérablement affaibli le contrôle des salariés eux-mêmes sur leurs propres conditions de travail et la parole des salariés eux-mêmes sur les conditions de travail et sur une éventuelle amélioration. Tout ça, ça a fait qu'il y a une dégradation des conditions de travail et une accidentologie qui ne se réduit pas, en tout cas. Par ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que les politiques parlent énormément. On est quand même énormément sur des campagnes communicationnelles. La plus récente, c'est je prends ma sécurité en main, enfin, ce qu'on entend à la radio. Donc, c'est aussi renvoyer les salariés à faire attention à leur propre sécurité, etc. Donc, on n'est vraiment pas dans une réflexion. Enfin, on sort vraiment de la réflexion qui guide, hein, la réglementation, qui est que l'employeur doit s'assurer de la prévention des risques des salariés. Donc, ça, c'est un problème. Puis, deuxièmement, aujourd'hui, par exemple, nous, nos organisations syndicales, CGT, Sud, et FSU sur le champ travail, on demande des outils très simples. Un exemple très simple, avec les épisodes caniculaires qu'on vit de manière relativement récente, les conditions de travail dans certains secteurs, je pense à l'agriculture, les vendanges par exemple, il y a eu plusieurs morts les années précédentes. Nous, ce qu'on demande, par exemple, l'inspection du travail, c'est un arrêt d'activité en cas de forte chaleur. Et on le réclame de cette manière-là au ministère, qui, ça fait 3-4 ans qu'on nous dit oui, on réfléchit, on va le mettre en œuvre, etc. Mais pour le moment, on voit rien, on ne voit rien, toujours rien. Et l'argument de notre administration, donc la Direction générale du travail, hein, qui est l'organe qui réfléchit au sein du ministère du Travail sur la réglementation, nous dit qu'elle attend un support législatif pour pouvoir le mettre en œuvre. Quand il s'agit de mettre en œuvre des lois qui vont à l'encontre des intérêts des salariés, des supports législatifs, ils savent en trouver. Là, en revanche, quand c'est un outil qui pourrait permettre de sauver des vies, mais qui va à l'encontre des employeurs du secteur agricole, etc., là, par contre, ça pose beaucoup plus de difficultés. On constate aussi, enfin ça c'est un des freins, hein, c'est que bah, aujourd'hui, le gouvernement, enfin les gouvernements successifs, hein, successifs évidemment, pas celui de le dernier de Lecornu avec particulièrement Farandou, hein, je parle des quelques-uns qui ont précédé, ils ont une oreille très attentive à la parole du patronat. Aujourd'hui, toute la petite musique qui consiste à dire qu'il y a trop de normes, bah ça, les gouvernements l'entendent très bien. Et du coup, bah les normes protectrices régressent. Je vais prendre juste un dernier exemple sur le sujet. L'année dernière, c'était sous le gouvernement Barnier, ça peut sembler loin, mais c'est en fait très près. Ils ont trouvé le support législatif pour mettre en œuvre le contrôle unique annuel dans les entreprises agricoles. C'est-à-dire le contrôle unique, c'est toute administration confondue. Alors, ils nous expliquent que l'inspection du travail n'est pas intégrée à ce texte-là, mais en tout cas, qu'est-ce que vont entendre les exploitants agricoles s'ils ont déjà eu un contrôle de l'OFB 2 mois avant, un contrôle des impôts, enfin je ne sais quoi, et si l'inspection du travail arrive, ils vont nous dire, attendez, nous, on nous dit qu'on n'a qu'un contrôle par an. Et là, vous venez nous emmerder. En fait, ça participe, nous, ce qu'on appelle le contrôle bashing, donc le fait que aujourd'hui, bah voilà, il est de bon ton de dire que bah, les contrôles, ça va à l'encontre de l'intérêt général et qu'il faut laisser, en gros, le bon sens des employeurs faire fonctionner les entreprises. Et on est complètement dans cette idéologie-là avec les gouvernements actuels, hein. Je caricature pas du tout, en fait, quand je présente ça. Et ça n'aide pas. Hein. Et ça a des conséquences très concrètes sur la santé et la vie des salariés, tout statut confondu, hein, bien sûr, hein, auto-entrepreneurs, travailleurs non déclarés, et bien sûr les travailleurs déclarés.
Je voulais rebondir, Christelle, sur l'exemple que tu donnais par rapport aux épisodes de canicule, parce que ça fait partie justement de l'un des ateliers qu'on va traiter au sein des assises, au sein du groupe Conditions de travail et environnement. Et cet exemple, il est intéressant parce qu'il montre bien, en fait, l'impact du travail sur l'environnement et les conséquences de l'environnement sur les conditions de travail. Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, effectivement, il y a la question de l'adaptation des conditions de travail au dérèglement climatique. Ça pose la question aussi de l'éco-bashing, parce que c'est le dérèglement climatique, il est lié à l'activité humaine, c'est-à-dire à la façon dont on produit, à la façon dont ces productions agricoles, les constructions, elles agissent en fait sur notre environnement, sur la santé évidemment de ceux qui travaillent et sur la santé des riverains. Et donc dans ce cadre-là, c'est vraiment important d'arriver à faire ce lien à travers la question de la santé au travail, parce que ça pose aussi et la question environnementale et la question des riverains. Au sein des assises de la santé, ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi que ces batailles pour la santé au travail, elles sont aussi une caisse de résonance des luttes qui peuvent faire avancer la cause environnementale. Pareil, c'est historique, hein, je pense par exemple à la lutte des Peñarolla dans les années 70, où ça a été une mobilisation de salariés qui a permis de faire rentrer dans la loi la question du plomb. Aujourd'hui, on pourrait aussi imaginer que toute la mobilisation qui a eu lieu contre la loi du plomb, de riverains, par rapport à l'empoisonnement des terres aux pesticides. Elles sont particulièrement intéressantes sur le plan environnemental, mais sur le plan syndical, parce qu'on avait aussi bah, justement des syndicalistes agricoles qui étaient là. Et donc, arriver à faire ce lien-là et à visibiliser des luttes à travers les assises, c'est une façon aussi de faire avancer en fait cette cause sociale et cette cause environnementale. L'année dernière, par exemple, on avait beaucoup travaillé avec les camarades du secteur des déchets qui s'étaient mis en grève pendant la réforme des retraites sur des questions qui étaient certes des questions liées à l'emploi, à la retraite, mais aussi sur des questions environnementales. La question de l'âge de la retraite, c'est une question de santé au travail. Comment est-ce qu'on fait pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible? C'est aussi une question écologique. C'est-à-dire que plus on produit, plus on impacte la planète. Et donc, limiter aussi le temps de travail et garantir la santé au travail, c'est une façon aussi de préserver notre environnement. Cette lutte, elle a aussi permis de visibiliser aussi la question, à travers la question des conditions de travail des salariés des déchets, la question de ce qu'on produisait et de l'ensemble des déchets qui étaient jetés dans notre environnement. Poser la question de l'écologie à partir de la question du travail et à partir de la mobilisation des salariés pour leur santé, c'est une façon de montrer la cohérence du système productiviste dans lequel on est engoncé là actuellement. Et une façon de réfléchir à la meilleure façon de s'en sortir pour vivre en bonne santé, quoi.
La musique est une thérapie aussi. Alors évidemment, il y a plein de goûts différents. Là, je vous ai choisi Climène Zarkan, Baptiste Ferrandis, Michel Pierre. Et je vous laisse écouter cet extrait du concert Génération France Musique.
فراغ تختفي مجدي
Quel rôle pour la santé au travail au sein des entreprises et en dehors des entreprises? Et quel rôle pour la santé au travail dans le militantisme politique plus globalement?
La question de la santé au travail, dans l'activité syndicale, dans l'activité sociale, reste une question marginale. On n'arrive pas à en faire une question centrale qui soit représentante telle. Et je pense que la solution, elle passe par les deux côtés. D'abord, c'est une prise en charge citoyenne. Il faut que ça devienne le sujet de toute la population. On ne peut pas isoler le fait que les gens aient leur santé atteinte dans le cadre du travail, mais que quand ils rentrent chez eux, on n'en parle plus, ça devient un autre univers. Donc ça, je pense que c'est la première idée. Et deuxième idée, il faut aussi donner des armes sur le terrain, dans les entreprises, aux syndicalistes, pour pouvoir reprendre ça en main. Et il y a donc une revendication centrale, c'est le rétablissement des CHSCT qu'on avait avant 2017, c'est-à-dire un organisme au sein des entreprises qui soit dédié aux questions de santé au travail, qui ait une reconnaissance juridique, une personnalité morale. Et donc, ça peut être aussi bien l'évolution des organismes actuels, qui sont des comités santé, sécurité au travail, CSSCT, qui sont en fait très marginalisés dans la relation au travail. Il faut qu'ils acquièrent une place centrale dans les instances de représentation du personnel au sein des entreprises, hein, et donc que les juges reconnaissent, par exemple, les procès-verbaux de ces organismes, ou bien aussi qu'ils redeviennent obligatoires à partir de 50 salariés, voire même plus dès qu'on est dans des activités dangereuses.
Ben je rejoins Louis-Marie sur la nécessité en fait de sortir la question de la santé au travail simplement du huis clos de l'entreprise et d'en faire une vraie campagne nationale parce que les riverains, les habitants, ce sont des travailleuses, des travailleurs ou des personnes qui sont dans la famille de travailleuses, de travailleurs. Et les salariés, quand ils sortent de l'entreprise, ils deviennent des riverains, des habitants. Je vais donner un exemple. À Dunkerque, qui avait les salariés d'ArcelorMittal qui étaient en mobilisation contre la fermeture de leur usine. Et l'usine d'Arcelor, c'est l'une des plus polluantes de France. Donc il y a énormément de problèmes pulmonaires dans cette ville à cause de la tenue de cette usine. Et il y a un collectif de riverains qui s'appelle Respire, qui travaille justement sur ces questions de pollution de l'air et qui est venu soutenir les salariés d'Arcelor dans leur combat pour le maintien de leur emploi, pour la nationalisation et pour la décarbonation. Notre force principale, c'est justement d'arriver à faire l'alliance et à conjuguer les intérêts des salariés et des riverains à travers justement un travail qui soit le moins nuisible possible, quoi. Sur le lien entre la question de la santé au travail, du syndicalisme et de l'environnement, en fait, les trois thématiques sont indissociablement liées et historiquement parce que avec l'arrivée des industries au XIXe siècle, en fait, on a déjà vu les premières mobilisations ouvrières autour des questions de santé par rapport au travail des enfants, par rapport au risque, par exemple, de grisou dans les mines. Et donc, cette question de la santé et des conditions de travail et de l'environnement, elle a toujours été indissociablement liée. Alors aujourd'hui, on a un petit peu oublié ça et on pense que la santé, c'est un peu la dernière roue du carrosse des conditions de travail, alors même que ça a été l'une des bases des mobilisations ouvrières. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'au sein des assises de la santé, il y ait un groupe de travail spécifique sur les questions de conditions de travail et d'environnement.
Comment défendre le travail et les salariés, Quel rôle du travail dans la vie globale des travailleurs?
Pour les salariés, il y a une des dimensions complètes en fait du travail hein, qui porte à la fois sur la structuration de la vie, le sens donné aussi à la participation de la collectivité, puis aussi toute une dimension de travail collectif et d'intégration dans des collectifs de travail. Notamment le travail en fait est un moment où on passe beaucoup de temps, mais surtout on est en contact avec d'autres gens. Aucun travail n'est vraiment isolé en fait, heureusement. Et ces moments collectifs, en fait, apportent beaucoup à la santé en tant que telle, quoi. Donc, l'enjeu pour la santé au travail, c'est à la fois que les personnes ne ressortent pas plus brisées par le travail que le travail ne les a construits, mais aussi permettre que le travail participe, en fait, de cette santé au travail par le fait qu'il y ait des liens collectifs, du soutien collectif dans le travail, des moments collectifs, de la capacité aussi de pouvoir soutenir son travail, de pouvoir le modifier, l'organiser soi-même, quoi. J'ai beaucoup travaillé sur les intérimaires et les intérimaires, par exemple, ils ont une grosse difficulté, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir sur l'organisation de leur travail puisque ils sont extérieurs en fait, et donc c'est une cause de souffrance, mais aussi il y a de leur part, il y a un mécanisme de mise à distance du travail pour répondre en fait à cette difficulté-là, quoi. Et donc le travail est vraiment toujours un structurant. Et donc quand le travail porte atteinte à la santé, je pense par exemple à ce qu'on appelle les risques psychosociaux, on a beaucoup de difficultés à comprendre comment à la fois on a beaucoup d'attentes envers le travail et en même temps comment on en ressort le soir brisé en fait. Et quand les gens ont des personnes, des travailleurs, les travailleuses ont des atteintes à leur santé psychique, en fait, ils mettent beaucoup, beaucoup plus de temps à s'en remettre que quand c'est des atteintes physiques. Je pense quand on est en arrêt longue maladie, par exemple, suite à des situations de harcèlement ou d'agression sexuelle dans le cadre de travail ou même simplement d'un travail nocif, les arrêts de travail sont extrêmement longs et le retour au travail est toujours beaucoup plus difficile que dans d'autres circonstances puisque on ne peut pas aménager le travail de façon aussi simple que pour d'autres affections, quoi. Voilà, donc il me semble que dans la bataille pour la santé au travail, c'est aussi la bataille pour un travail de qualité, un travail dans lequel on puisse agir, un travail qui permette de construire sa santé. Derrière, il y a donc tout le rapport au travail qu'on peut avoir dans l'ensemble de la vie sociale.
Par rapport à ce qu'a dit Louis-Marie, effectivement, dans le cadre des risques psychosociaux, c'est que souvent, c'est perçu comme étant une faiblesse du salarié, en fait, et non pas comme un symptôme d'un collectif qui ne fonctionne pas et surtout de processus de travail qui génèrent eux-mêmes des dysfonctionnements. Alors ça, je pense qu'il faudra trouver éventuellement une autre dénomination pour démontrer le caractère collectif et exogène aux salariés, en fait, surtout. Ça, c'est la première chose, même si on est tous d'accord qu'on ne réagit pas nécessairement de la même façon aux pressions et tout. Rien n'est remis en cause par rapport à ça, mais en tout cas, il faut vraiment faire en sorte que, on sorte de l'idée que c'est le salarié qui, à un moment donné, décompense, enfin, même si c'est le cas, mais que c'est de sa faute, en fait. Si on prend, il y a des activités, moi, je suis convaincue qu'à un moment donné, il faudra qu'on arrête avec ces activités. Je sais que c'est des débats qu'on peut avoir, y compris dans nos organisations syndicales. Par exemple, si on est tous intimement convaincus, enfin tous collectivement convaincus que le nucléaire, il faut en finir avec le nucléaire, on peut aussi, même si ça n'en prend pas le chemin, considérer ça aussi pour l'industrie d'armement. À un moment, oui, il faudra le faire, mais ça implique évidemment qu'on ne laisse pas les salariés se dépatouiller avec le fait qu'ils ne soient plus en emploi, etc. Évidemment, il y a une responsabilité collective qu'il faut mettre en œuvre, qu'il va falloir trouver, qu'il va falloir mettre en œuvre pour que les salariés qui ne sont responsables de rien, en fait, ne soient pas les premiers lésés. On défend un travail qui est bénéfique pour la société, enfin pour le collectif et pour les travailleurs.
Oui, je réagis à ce que tu dis, Christelle. En effet, enfin, la question de la reconversion écologique des industries polluantes, elle est fondamentale et elle permet à la fois de défendre le travail, en tout cas les personnes qui sont employées dans ce travail, tout en protégeant les riverains et de défendre la vie en général, le vivant en général. Après, ça pose la question de l'organisation du travail, du temps de travail, de l'utilité des emplois qui sont proposés aussi, parce que on a ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire des emplois qui servent à rien, qui polluent la planète, qui rendent les gens malheureux parce que c'est difficile de travailler dans un espace qui n'a pas de sens, alors qu'on a des emplois qui sont fondamentalement utiles à la collectivité, bah, précisément bah, la santé, par exemple, ou l'éducation, et qui sont des emplois qui sont complètement dévalorisés. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une réflexion à mener sur quel travail on veut et dans quel but, dans quelle mesure est-ce que ce travail est utile à la collectivité, dans quelle mesure est-ce que c'est un commun, et à quoi ça nous sert. Et toutes ces questions-là, elles peuvent se poser à travers le prisme de la santé.
Je souscris évidemment intégralement à ce que vient de dire Marjorie. Enfin, si on prend le cas des usines Seveso, par exemple, qui sont installées dans des zones d'habitation, bien évidemment, ça ne concerne pas que les travailleurs de cette entreprise. Ça concerne l'ensemble. Si on prend l'exemple des hyperfermes agricoles, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui existent notamment en Bretagne, qui polluent les eaux, bien évidemment, ça ne concerne pas que les conditions de travail des personnes dans les exploitations agricoles, mais bien évidemment l'ensemble de la société. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'exemple au Pays Basque, où il y a une mobilisation citoyenne systématiquement dès qu'il y a un accident grave, c'est fondamental et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à essaimer, en fait. C'est un rapport de force qu'il faut impérativement imposé de mon point de vue. Et surtout, essentiellement, à un moment, il faut le rétablissement des CHSCT, mais aussi élargir, comme le disait Marie, leurs prérogatives. Parce qu'aujourd'hui, y compris avant 2017, un CHSCT, quand l'employeur y mettait en œuvre le nombre de réunions qu'il devait faire, etc., si à un moment donné, il y avait un désaccord, eh ben, ça partait dans les limbes. Il n'y a pas de possibilité de discuter, d'aller au-delà et d'imposer des choses, sauf si on saisit le juge et tout, mais encore une fois, c'est des choses qui se passent de manière assez marginale. Et aujourd'hui, malgré tout, tout ce qui relève, entre guillemets, et avant c'était la même chose, tout ce qui relève du dialogue social, en fait, c'est juste fait pour faire croire qu'on fait des choses. Mais les choses ne se font pas. Et il faudrait vraiment aujourd'hui que, bah oui, créer des instances où un véritable rapport de force puisse être créé en faveur des salariés et plus largement des habitants.
Cette émission se termine. Merci d'être resté avec nous. Vous avez pu constater que j'ai une voix un peu cassée, mais de saison. On va se retrouver au mois d'avril, le 14 avril, pour une émission consacrée à la décarbonation. Encore un sujet bien, pas compliqué, mais en tous les cas bien sensible, je dirais. C'est le moment donc de se quitter. Comme habituellement, ciao ciao, see you soon, bisous bisous.
Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre
zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde, autre monde, autre zone.
Autre zone.